Kaufmännische Berufsmatura 2021. Französisch Hörverstehen. An alle Aufsichtspersonen, verteilen Sie jetzt die Frageblätter zum Prüfungsteil Hörverstehen. Sie haben dafür 2 Minuten Zeit. Die Kandidatinnen und Kandidaten schreiben ihren Namen, Vornamen und so weiter aufs Deckblatt. Achtung! Erst wenn auf dem Tonträger Französisch gesprochen wird, dürfen die Fragen auf den Aufgabenblättern gelesen werden.
Maturité professionnelle 2021, compréhension auditive. Bonjour à toutes et à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue à l'examen de compréhension auditive. Monologue. Vous entendrez l'enregistrement en 2 parties. D'abord, la première partie du monologue, 2 fois, et ensuite, la 2e partie du monologue que vous allez également entendre 2 fois. Vous avez 45 secondes pour lire les questions et les affirmations de l'exercice A1. Première écoute de la première partie du monologue.
Je m'appelle Luc Langevin. Je suis né au Québec et j'ai 38 ans. Ma profession est assez spéciale. Je suis illusionniste. Parfois, on emploie aussi le terme de magicien, mais tout le monde sait que la magie n'existe pas. C'est pourquoi je préfère me définir comme un créateur d'illusions. L'illusion, c'est l'art de tromper les 5 sens du public pour lui montrer quelque chose qui n'est pas réel et lui faire vivre un moment d'émerveillement. La première fois que j'ai vu un tour de magie, j'avais 6 ans, et ma passion pour cet art n'a jamais faibli depuis. J'ai appris tout seul, je me suis beaucoup entraîné devant ma famille. Je ne serais sans doute jamais devenu illusionniste sans mes parents. Je dois mon esprit scientifique à mon père qui est comptable. De ma mère, elle est psychoéducatrice. J'ai ma passion pour la métaphysique et l'immatériel. Mes parents trouvaient important que je poursuive mes études scientifiques à l'université, alors j'ai persévéré. Je suis devenu physicien. J'ai une maîtrise en optique et un doctorat en biophotonique. J'ai compris assez vite que la science était une énorme source d'inspiration pour l'illusionnisme. Le fait de connaître et de maîtriser les forces invisibles qui contrôlent notre monde nous permet de créer un effet de magie. Vers 19 ans, j'ai commencé à développer des tours de magie à partir de découvertes physiques, mais aussi d'éléments de la mécanique, de l'électronique et de la chimie. J'ai voulu créer l'illusionnisme d'une nouvelle génération, loin des paillettes et des lapins dans le chapeau. Un illusionnisme qui voyage entre la science et le rêve.
Vous avez 50 secondes pour répondre aux questions et aux affirmations de l'exercice A1. Deuxième écoute de la première partie du monologue.
Je m'appelle Luc Langevin. Je suis né au Québec et j'ai 38 ans. Ma profession est assez spéciale. Je suis illusionniste. Parfois, on emploie aussi le terme de magicien, mais tout le monde sait que la magie n'existe pas. C'est pourquoi je préfère me définir comme un créateur d'illusions. L'illusion, c'est l'art de tromper les cinq sens du public pour lui montrer quelque chose qui n'est pas réel et lui faire vivre un moment d'émerveillement. La première fois que j'ai vu un tour de magie, j'avais 6 ans, et ma passion pour cet art n'a jamais faibli depuis. J'ai appris tout seul, je me suis beaucoup entraîné devant ma famille. Je ne serais sans doute jamais devenu illusionniste sans mes parents. Je dois mon esprit scientifique à mon père qui est comptable. De ma mère, elle est psychoéducatrice. J'ai ma passion pour la métaphysique et l'immatériel. Mes parents trouvaient important que je poursuive mes études scientifiques à l'université, alors j'ai persévéré. Je suis devenu physicien. J'ai une maîtrise en optique et un doctorat en biophotonique. J'ai compris assez vite que la science était une énorme source d'inspiration pour l'illusionnisme. Le fait de connaître et de maîtriser les forces invisibles qui contrôlent notre monde nous permet de créer un effet de magie. Vers 19 ans, j'ai commencé à développer des tours de magie à partir de découvertes physiques, mais aussi d'éléments de la mécanique, de l'électronique et de la chimie. J'ai voulu créer l'illusionnisme d'une nouvelle génération, loin des paillettes et des lapins dans le chapeau. Un illusionnisme qui voyage entre la science et le rêve.
Vous avez 50 secondes pour compléter vos réponses de l'exercice A1. Nous passons maintenant à la deuxième partie du monologue. Vous avez 45 secondes pour lire les questions et les affirmations de l'exercice A2. première écoute de la deuxième partie du monologue.
À 24 ans, j'ai été remarqué par une société de production d'émissions télé. C'est ainsi qu'a commencé ma carrière d'animateur télé. Je suis très vite devenu une vedette au Canada. J'ai présenté plusieurs émissions avec parfois plus d'un million de spectateurs. Encouragé par le succès de mes émissions télé, j'ai produit en 2013 mon premier spectacle sur scène. 200 représentations devant plus de 150 000 spectateurs. Un grand succès. Les hommes ont toujours fait référence à la magie pour justifier ce qu'ils ne comprenaient pas. Au temps préhistorique, c'était le feu ou la pluie. Aujourd'hui, c'est par exemple le principe de l'effet tunnel qui permet de séparer deux objets. Il est vrai que pour créer mes tours, j'aime bien partir d'un phénomène scientifique peu connu, la lévitation des objets par exemple. Et j'essaie d'imaginer comment je pourrais illustrer le phénomène de façon spectaculaire. Mais à part le côté technique, il faut aussi mener une démarche artistique. Je choisis d'utiliser une mise en scène spécifique, ou une musique, ou un éclairage. Je mets beaucoup de ma personne, de mon imagination dans un numéro. Et j'adore aussi interagir avec mon public. Des spectateurs montent sur scène avec moi et participent à mes tours. Un illusionniste doit par conséquent être un peu psychologue, savoir comment prendre les gens, les observer. J'utilise souvent le mentalisme, par exemple, pour inciter un spectateur à choisir un objet plutôt qu'un autre. En outre, j'ai remarqué des différences en ce qui concerne le public suivant les endroits où je me trouve. D'une manière générale, les Européens cherchent plus à comprendre les numéros que les Québécois, qui sont plus dans l'émotion. Et il y a parmi les spectateurs des métiers que je préfère éviter. Les architectes d'intérieur, par exemple, qui savent très bien voir des détails qui échappent aux autres. Ou les électriciens, très difficiles à tromper. Mais ce sont les risques du métier.
Vous avez 50 secondes pour répondre aux questions et aux affirmations de l'exercice A2. Deuxième écoute de la deuxième partie du monologue.
À 24 ans, j'ai été remarqué par une société de production d'émissions télé. C'est ainsi qu'a commencé ma carrière d'animateur télé. Je suis très vite devenu une vedette au Canada. J'ai présenté plusieurs émissions avec parfois plus d'un million de spectateurs. Encouragé par le succès de mes émissions télé, j'ai produit en 2013 mon premier spectacle sur scène. 200 représentations devant plus de 150 000 spectateurs. Un grand succès. Les hommes ont toujours fait référence à la magie pour justifier ce qu'ils ne comprenaient pas. Au temps préhistorique, c'était le feu ou la pluie. Aujourd'hui, c'est par exemple le principe de l'effet tunnel qui permet de séparer deux objets. Il est vrai que pour créer mes tours, j'aime bien partir d'un phénomène scientifique peu connu. La lévitation des objets, par exemple. Et j'essaie d'imaginer comment je pourrais illustrer le phénomène de façon spectaculaire. Mais à part le côté technique, il faut aussi mener une démarche artistique. Je choisis d'utiliser une mise en scène spécifique, ou une musique, ou un éclairage. Je mets beaucoup de ma personne, de mon imagination dans un numéro. Et j'adore aussi interagir avec mon public. Les spectateurs montent sur scène avec moi et participent à mes tours. Un illusionniste doit par conséquent être un peu psychologue, savoir comment prendre les gens, les observer. J'utilise souvent le mentalisme, par exemple, pour inciter un spectateur à choisir un objet plutôt qu'un autre. En outre, j'ai remarqué des différences en ce qui concerne le public suivant les endroits où je me trouve. D'une manière générale, les Européens cherchent plus à comprendre les numéros que les Québécois, qui sont plus dans l'émotion. Et il y a parmi les spectateurs des métiers que je préfère éviter. Les architectes d'intérieur, par exemple, qui savent très bien voir des détails qui échappent aux autres. Ou les électriciens, très difficiles à tromper. Mais ce sont les risques du métier.
Vous avez 50 secondes pour compléter vos réponses de l'exercice A2.
Nous passons maintenant au dialogue. Vous entendrez l'enregistrement en deux parties. D'abord, la première partie du dialogue, deux fois, et ensuite, la deuxième partie du dialogue que vous allez également entendre deux fois. Vous avez 45 secondes pour lire les questions et les affirmations de l'exercice A3. Première écoute de la première partie du dialogue. Philomena Schwab est jeune, ambitieuse et l'une des meilleures de sa branche. Même avant d'obtenir son master en conception de jeux vidéo à la Haute École des Arts de Zurich, elle a fondé le studio Strayhorn avec Misha Stettler. En août 2019, elle a obtenu le Hero Award à la Gamescom à Cologne. Philomena Schwab, bonjour. En 2016, vous avez fondé votre propre studio. Est-ce que vous et les membres de votre équipe arrivez à vivre de ce métier?
Oui, nous sommes financièrement indépendants. Nos deux premiers jeux nous ont rapporté de l'argent, mais nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers. Créer un jeu pour ordinateur demande 2 à 3 ans de travail intense. Une grande partie des bénéfices précédents doit donc être injectée dans le développement du prochain jeu. Si celui-ci est un fiasco, alors la situation peut devenir critique.
Parlez-nous de votre entreprise.
Notre studio est petit, nous sommes 12 employés, répartis entre 7 à 8 plein temps. Il y a une atmosphère presque familiale au sein de l'équipe. Il est important pour moi que nous entretenions de bons rapports et je joue un rôle modèle à cet égard. Jusqu'à présent, nous n'avons jamais publié une seule offre d'emploi. Lorsque nous avons besoin de renforts, nous faisons appel à notre réseau. Nous avons tous le même salaire. Le cofondateur et moi-même ne bénéficions d'aucun statut particulier. En plus, nous avons instauré un système de bonus sur la seule base de l'ancienneté et du taux d'occupation.
Votre premier jeu vidéo niche porte sur les lois de l'hérédité. Votre deuxième est un simulateur de construction de drones. Ces deux jeux transmettent des connaissances. Est-ce votre objectif?
Notre priorité est de créer des jeux qui divertissent. Et cela en lien avec des thèmes qui nous intéressent. La transmission d'un savoir est en quelque sorte un effet secondaire positif dont nous sommes extrêmement satisfaits. Nous mettons niche gratuitement à la disposition des écoles du monde entier. Les élèves peuvent jouer pendant le cours de biologie pour comprendre les lois de la génétique. Je pense que les jeux vidéo possèdent un énorme potentiel dans le domaine éducatif. La différence avec le mode de transmission traditionnel est évidente. Lorsque l'on joue, on a un rôle actif, on fait quelque chose. Soudain, on est Charles Darwin.
Vous avez 50 secondes pour répondre aux questions et aux affirmations de l'exercice A3. Deuxième écoute de la première partie du dialogue. Philomena Schwab est jeune, ambitieuse et l'une des meilleures de sa branche. Même avant d'obtenir son master en conception de jeux vidéo à la Haute École des Arts de Zurich, elle a fondé le studio Strayhorn avec Misha Stettler. En août 2019, elle a obtenu le Hero Award à la Gamescom à Cologne. Philomena Schwab, bonjour. En 2016, vous avez fondé votre propre studio. Est-ce que vous et les membres de votre équipe arrivez à vivre de ce métier?
Oui, nous sommes financièrement indépendants. Nos deux premiers jeux nous ont rapporté de l'argent, mais nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers. Créer un jeu pour ordinateur demande 2 à 3 ans de travail intense. Une grande partie des bénéfices précédents doit donc être injectée dans le développement du prochain jeu. Si celui-ci est un fiasco, alors la situation peut devenir critique.
Parlez-nous de votre entreprise.
Notre studio est petit, nous sommes 12 employés, répartis entre 7 à 8 plein temps. Il y a une atmosphère presque familiale au sein de l'équipe. Il est important pour moi que nous entretenions de bons rapports et je joue un rôle modèle à cet égard. Jusqu'à présent, nous n'avons jamais publié une seule offre d'emploi. Lorsque nous avons besoin de renforts, nous faisons appel à notre réseau. Nous avons tous le même salaire. Le cofondateur et moi-même ne bénéficions d'aucun statut particulier. En plus, nous avons instauré un système de bonus sur la seule base de l'ancienneté et du taux d'occupation.
Votre premier jeu vidéo niche porte sur les lois de l'hérédité. Votre deuxième est un simulateur de construction de drones. Ces deux jeux transmettent des connaissances. Est-ce votre objectif?
Notre priorité est de créer des jeux qui divertissent. Et cela en lien avec des thèmes qui nous intéressent. La transmission d'un savoir est en quelque sorte un effet secondaire positif dont nous sommes extrêmement satisfaits. Nous mettons Niche gratuitement à la disposition des écoles du monde entier. Les élèves peuvent jouer pendant le cours de biologie pour comprendre les lois de la génétique. Je pense que les jeux vidéo possèdent un énorme potentiel dans le domaine éducatif. La différence avec le mode de transmission traditionnel est évidente. Lorsque l'on joue, on a un rôle actif, on fait quelque chose. Soudain, on est Charles Darwin.
Vous avez 50 secondes pour compléter vos réponses de l'exercice A3. Nous passons maintenant à la deuxième partie du dialogue. Vous avez 45 secondes pour lire les questions et les affirmations de l'exercice A4. Première écoute de la deuxième partie du dialogue. Vous défendez donc la reconnaissance des jeux vidéo comme forme d'art et de culture.
Beaucoup ne connaissent que les jeux sur le téléphone portable et leur fort risque d'addiction. Rares sont ceux qui ont vu un beau jeu culturel conçu en Suisse et y ont joué. Et pourtant, il en existe tellement. Par exemple, Far Lone Sails, du studio zurichois Okomotive. Ce jeu a été primé de nombreuses fois dans des concours internationaux. D'ailleurs, par rapport à son nombre d'habitants, la Suisse remporte énormément de prix pour ses jeux vidéo. Vous voyez, la perception des jeux vidéo a beaucoup évolué. En plus de leur aspect commercial, les jeux présentent aujourd'hui une dimension artistique et éducative évidente. C'est pourquoi ils font désormais partie de la culture actuelle.
La société investit davantage dans la formation au développement de jeux vidéo. Plusieurs hautes écoles proposent des cycles de formation réputés.
C'est vrai. Nous investissons beaucoup d'argent dans la formation de personnes hautement qualifiées, mais nous manquons d'investissement dans la branche et donc de postes. Lorsque j'ai obtenu mon bachelor en 2014, plus de la moitié de ma promotion n'a pas trouvé de travail dans l'industrie des jeux vidéo. Il faut savoir que la Suisse a de nombreuses années de retard par rapport à l'Europe en matière de subventions dans ce domaine. Les pays nordiques, tels que la Finlande et la Suède, ont investi tôt dans ce secteur et ont depuis longtemps rentabilisé leurs fonds grâce aux rentrées fiscales.
Vous avez déclaré un jour « La crainte qu'ont les Suisses d'échouer me tape sur les nerfs ». Est-ce toujours le cas?
Oui, il faut que nous acceptions qu'échouer fait partie du jeu. Ce n'est pas la fin du monde, mais il faut savoir se remettre sur pied après un échec.
Philomena Schwab, merci de cet entretien et bon courage pour la suite. Vous avez 50 secondes pour répondre aux questions et aux affirmations de l'exercice A4. Deuxième écoute de la deuxième partie du dialogue. Vous défendez donc la reconnaissance des jeux vidéo comme forme d'art et de culture.
Beaucoup ne connaissent que les jeux sur le téléphone portable et leur fort risque d'addiction. Rares sont ceux qui ont vu un beau jeu culturel conçu en Suisse et y ont joué. Et pourtant, il en existe tellement. Par exemple, Far Lone Sails, du studio zurichois Okomotive. Ce jeu a été primé de nombreuses fois dans des concours internationaux. D'ailleurs, par rapport à son nombre d'habitants, la Suisse remporte énormément de prix pour ses jeux vidéo. Vous voyez, la perception des jeux vidéo a beaucoup évolué. En plus de leur aspect commercial, les jeux présentent aujourd'hui une dimension artistique et éducative évidente. C'est pourquoi ils font désormais partie de la culture actuelle.
La société investit davantage dans la formation au développement de jeux vidéo. Plusieurs hautes écoles proposent des cycles de formation réputés.
C'est vrai. Nous investissons beaucoup d'argent dans la formation de personnes hautement qualifiées, mais nous manquons d'investissement dans la branche et donc de postes. Lorsque j'ai obtenu mon bachelor, en 2014, plus de la moitié de ma promotion n'a pas trouvé de travail dans l'industrie des jeux vidéo. Il faut savoir que la Suisse a de nombreuses années de retard par rapport à l'Europe en matière de subventions dans ce domaine. Les pays nordiques, tels que la Finlande et la Suède, ont investi tôt dans ce secteur et ont depuis longtemps rentabilisé leurs fonds grâce aux rentrées fiscales.
Vous avez déclaré un jour « La crainte qu'ont les Suisses d'échouer me tape sur les nerfs ». Est-ce toujours le cas ?
Oui, il faut que nous acceptions qu'échouer fait partie du jeu. Ce n'est pas la fin du monde, mais il faut savoir se remettre sur pied après un échec.
Philomena Schwab, merci de cet entretien et bon courage pour la suite. Vous avez 50 secondes pour compléter vos réponses de l'exercice A4. Fin de l'examen de compréhension auditive.